Alors, professeur Queloz, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous consacrer ce temps et cette interview. Alors, nous allons, si vous le voulez bien, procéder en trois temps. Bref, pour accoster le sujet de vos recherches, en commençant par la personne, la trajectoire, la découverte. Alors évidemment, on est obligé de commencer par la question obligatoire. Le 6 octobre 1995, en compagnie de Michel Mayer, qui est votre directeur de thèse à l'époque, à l'Observatoire de Genève, vous découvrez la première exoplanète en orbite autour d'une étoile de type solaire, 51 Pégase B, en orbite donc autour de l'étoile 51 Pégase, située dans la constellation de Pégase à environ 40 années-lumière. Jusqu'à présent, j'ai juste...
C'est tout à fait correct.
Très bien. Alors, ces observations sont réalisées à l'Observatoire de Haute-Provence par la méthode des vitesses radiales et nous y reviendrons. Cette découverte vous vaut le prix Wolf en 2017 et puis, 25 ans après... quasiment, le 8 octobre 2019, le prix Nobel de physique. Alors, les mois passés, qu'en reste-t-il? Comment est-ce qu'on reçoit cette nouvelle-là et qu'est-ce qui nous habite après?
Bon, d'abord, les mois n'ont pas complètement passé, parce que c'est vrai qu'un prix Nobel, ça déclenche beaucoup d'intérêt, ça déclenche beaucoup d'intérêt d'abord de la part du public, donc on se trouve à être très sollicité et on revit tout le temps un tout petit peu cette émotion de l'événement du prix Nobel à travers toutes les sollicitations que l'on a. Donc c'est toujours absolument merveilleux de ressentir cette impression. Donc qu'est-ce qu'on ressent 25 ans après? Bon, d'abord, on est content pour le domaine de la science qu'on a de fait initié avec Michel. Les exoplanètes ont eu des débuts difficiles. Pendant plusieurs années, faisant suite à notre découverte, on a eu de la difficulté à convaincre parce que, on y reviendra peut-être, mais ces planètes qu'on a trouvées étaient relativement étranges dans la mesure où elles n'avaient pas vraiment d'équivalent dans notre système solaire. Et ça a été une énorme difficulté pour arriver à convaincre d'abord nos collègues et également à convaincre de manière plus générale la communauté scientifique. Bon, comme on dit toujours, la science, tôt ou tard, a toujours raison parce que quand les faits s'accumulent, il arrive un moment donné où les faits sont tels que l'évidence devient inéductable. Donc, on a mis, on va dire, à peu près 5 ans après 1995 pour que la communauté progressivement réalise ce qui était en train de se passer. Et évidemment, après, ça a été une véritable croissance perpétuelle où chaque nouvelle découverte déclenchait un nouvel intérêt et un intérêt supplémentaire de la part de la communauté. Et vous avez eu, de fait, une croissance totalement, on peut dire, exponentielle du nombre de personnes, du nombre de projets, du nombre de découvertes qui ont progressivement suivi, jusqu'à arriver à plus de 4000 maintenant exoplanètes. Et quelque part, ce que j'appelle une révolution de notre compréhension de notre place dans l'univers, de fait.
Mmh, d'accord. Donc ces sensations de sidération, elle est tout le temps là, peut-on dire. Mais en même temps, vous avez cette reconnaissance de vos pairs qui... Et puis, finalement, on peut estimer que, du coup, ça stimule d'une certaine manière un ensemble de personnes pour aller plus loin encore.
Alors, on a eu de la chance qu'il existe autant de planètes qu'on pourrait qualifier de faciles à trouver par les techniques qu'on avait développées. Ce qui n'était pas quelque chose de garanti parce que les planètes du système solaire sont difficiles à détecter. Donc il existe une énorme population de planètes qui est beaucoup plus facile à trouver que les planètes du système solaire avec les moyens que l'on a. Le nombre de découvertes qu'il y a eu a joué le rôle d'un énorme, stimulation pour le public, d'abord, pour le sujet, et également pour les étudiants. On est un domaine qui attire énormément d'étudiants, simplement parce que, pour reprendre une expression simple, c'est cool comme sujet. Vous avez tellement à faire, c'est tellement exploratoire que quand vous êtes jeune, vous ressentez quelque part que vous pouvez faire quelque chose dans son domaine. Donc on a la chance dans un domaine avec énormément de ce qu'on appelle énergie jeune et positive, ce qui fait que c'est un vrai bonheur, je dois dire, de travailler dans cette thématique.
Ouais. Peut-on dire d'une certaine manière que dans cette découverte est survenue un petit peu par sérendipité, c'est-à-dire que ça n'était pas le sujet immédiat de votre recherche, et je pose cette question-là pour en arriver aux méthodes Vous l'avez découvert au travers de la méthode radiale. Et puis, effectivement, vous l'avez dit, plus de 4100 exoplanètes sont désormais recensées. Et c'est beaucoup, c'est une avalanche de découvertes, notamment par la méthode des transits. Et je voulais vous questionner à ce propos, juste après.
Ok. Alors, est-ce que c'est vraiment totalement aléatoire? Pas complètement. En fait, ce qu'il faut, il faut rembobiner un peu le fil du temps. La question de l'existence des exoplanètes, de planètes sur d'autres étoiles, est très ancienne. Donc, on était sur un sujet qui était, on va dire, un sujet de fond de l'astrophysique. Il s'avère qu'il y a eu, entre les années 30 et les années 80, beaucoup d'annonces. En fait, il y a eu des annonces spectaculaires qui se sont avérées erronées, d'annonces de planètes. Donc, le sujet était un peu un sujet miné, où il y avait relativement peu de gens qui s'y risquaient. Il s'avère qu'en parallèle, il y a eu des nouveaux développements technologiques qui ont permis d'élaborer des nouvelles techniques d'observation. Et une d'entre elles était d'utiliser la mesure de la vitesse des étoiles pour éventuellement détecter la présence d'un objet en orbite autour de ces étoiles. C'est ce qu'on appelle la technique des vitesses radiales. Il y a eu beaucoup de progrès qui a été fait entre les années 60 et les années 80 dans cette technologie, et au début des années 90, quand moi j'ai commencé ma thèse, on avait la possibilité de développer un nouveau type d'instrument avec des capacités telles que s'il y avait des planètes en orbite autour des étoiles, on pouvait les trouver. Donc la question, c'est est-ce que ce programme-là est un programme qui était tout de suite quelque part au sommet de nos priorités à l'époque. Alors la réponse, honnêtement, c'est non, mais ça en faisait partie. Je pense que c'est quelque part ce qui nous a sauvés dans cette affaire. C'est qu'on était conscient qu'on avait cette capacité de le faire, mais on a pris le problème de manière plus générale. Michel Mayor avait tout un historique dans trouver des petites étoiles et des objets qu'on appelle des naines brunes. Il avait développé un appareil dans les années 70, donc quelque part, c'était un sujet qui était un sujet dans lequel il avait une certaine reconnaissance internationale. Donc pour lui, c'était assez facile d'imaginer de construire un instrument qui allait poursuivre la même exploration et qui, en améliorant la précision, avait aussi le potentiel de trouver une planète. Et en fait, on est parti avec cette démarche qui consistait à dire on va observer des petits objets en orbite autour des étoiles. Et ces petits objets pouvant être également des planètes. Et c'est un peu comme ça qu'on a abordé. Mais c'est sûr que l'attente au début du programme était telle qu'il était hors de question qu'on trouve une planète comme Jupiter, par le simple fait que Jupiter met à peu près 10 ans pour faire le tour de son orbite et qu'il faut 10 ans de données pour le faire. Si bien que Michel Mayor, au début de ma thèse, ou plutôt vers le milieu, m'a dit « Non, mais de toute façon, on va mettre en service cet instrument, qui était en fait mon travail, hein, principalement, et tout ce qui allait autour, mais tu ne pourras pas vraiment trouver de planète. Ça prendra des années. » Et moi, je dis « Mais ça fait rien, c'est tellement incroyable comme projet. Commençons le projet. » Et c'est un peu comme ça, c'est avec cet état d'esprit qu'on a démarré le projet. Donc, on va dire une grande ouverture d'esprit à ce qu'on pouvait trouver, mais aucune attente au niveau des planètes. Le sujet ne faisait pas partie de mon sujet de thèse. Donc, vous pouvez imaginer ma surprise quand Michel m'ayant laissé les clés de l'instrument parce qu'il était parti faire un sabbatique à juste titre, parce que rien n'allait se passer, c'était évident, c'était le début du programme. Je tombe sur cette étoile, 51 PEG, et je vois des variations de vitesse, et que la seule explication que j'avais pu avoir à l'époque, c'était de me dire qu'il y avait une planète. Et pour imaginer la surprise de Michel, quand je lui ai annoncé que j'avais trouvé une planète, très sceptique, et puis progressivement, en refaisant plus de données, en analysant ensemble les données, il s'est fait à l'évidence qu'on avait effectivement trouvé une planète. Donc, quelque part, on a eu de la chance, mais de la chance que ces planètes existent. Et le domaine a eu de la chance que les planètes existent, parce que si ces planètes, à courte période, il y en a beaucoup maintenant, et c'est la majorité de celles qu'on a trouvées, n'avaient pas existé, des missions spatiales comme Kepler, qui a été un grand succès, auraient été un petit fiasco, parce qu'ils n'auraient pas trouvé grand-chose non plus. Donc en fait, tout le domaine des exoplanètes a eu de la chance que ces planètes existent, et qui a permis, de développer au-delà de ce qu'on avait imaginé avec une vitesse phénoménale cette thématique qui maintenant a finalement les moyens de trouver les fameuses planètes équivalentes à notre système solaire. Mais ça, c'est, il a fallu 25 ans et ça ne nous a pas empêché d'en trouver beaucoup. Donc ça, c'est un peu l'aventure, en fait, l'aspect en fait chanceux qu'on a eu dans cette aventure scientifique. Mais vous savez, quand vous regardez l'histoire des sciences, vous allez constater que cet élément, on va dire un tout petit peu de chance, il est présent dans beaucoup d'endroits. Quand Fleming trouve les antibiotiques, alors évidemment, il cherchait plus ou moins ça, mais pas vraiment. Donc, ce qui fait la beauté de la science, c'est pas forcément que vous soyez obsessif à chercher une réponse à quelque chose, c'est que vous gardiez les yeux ouverts pour que si vous trouvez quelque chose, reconnaître la partie nouvelle. Et quelque part, c'est là qu'on a eu du succès, c'est là qu'on a bien travaillé, c'est qu'on a su reconnaître dès le début l'importance de nos observations et on a su les interpréter correctement. C'est quelque part pour cela qu'on a 25 ans après bénéficier de la reconnaissance extraordinaire du prix Nobel.
Oui. Alors, on va effectivement revenir là-dessus. Je voulais encore juste vous questionner sur... voilà, parce que vous avez parlé de tout ce parcours que vous avez mené et votre trajectoire à vous. À quel moment est-ce que dans votre vie, vous vous êtes dit, tiens, je vais faire de l'astrophysique, je vais dédier ma vie. Est-ce qu'on pense déjà, quand on est tout petit, à se dire, je vais aller explorer le par contumace, les étoiles, et puis, pourquoi pas, un jour, je découvrirai quelque chose.
Alors, je dirais que ma vie, depuis mon plus jeune âge, est dominée par la curiosité. Alors, c'est un peu le cas de tout le monde. Peut-être qu'elle est un peu plus forte chez moi. En plus, j'ai une certaine aisance avec l'abstraction et les mathématiques, si bien que quand vous mettez la curiosité, les mathématiques et l'abstraction, vous partez naturellement vers un domaine scientifique. Donc, j'étais très intéressé par la connaissance scientifique de manière très très large, mais pas particulièrement par l'astrophysique. Ça en faisait partie, mais ce n'était pas uniquement l'astrophysique. J'ai débuté des études de physique par intérêt pour la physique. Et c'est au cours de ces études que j'ai commencé à mieux appréhender le monde de la physique et que j'ai découvert l'astrophysique. L'astrophysique, c'est assez cool comme physique. Vous avez les trous noirs, vous avez le Big Bang, vous avez des choses assez fondamentales qui sont des objets absolument incroyables en termes de physique. Donc, c'est de la belle physique. En plus de ça, c'est de la belle physique, si vous aimez l'expérimentation, que vous pouvez faire dans des sites incroyables. Vous avez le désert d'Atacama, vous avez des sommets de volcans, que ce soit La Palma, que ce soit Hawaï. Donc, c'est assez incroyable quand même. Et comme j'aime bien être dehors, j'aime bien la montagne, j'aime bien les sites un peu extraordinaires, je me suis dit que c'était quand même pas mal d'essayer de coupler l'idée d'aller dans des laboratoires un peu exceptionnels qui sont des sites d'observation, de construire des instruments, ce que j'aime faire. J'aime le côté construction d'instruments, aller recueillir des données, aller essayer de faire quelque chose, aller voir l'invisible. Et c'est comme ça que je suis un peu par hasard arrivé en astrophysique. Donc je suis, on va dire, j'aurais très bien pu faire autre chose. C'est un peu un hasard de circonstances. J'avais fait de la physique à Genève. Genève avait un des rares gros départements d'astrophysique à cette époque. Maintenant, il y en a un peu plus, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, c'était assez facile pour moi d'aller faire de l'astrophysique et ça me convenait bien. Donc, c'est comme ça que j'y suis arrivé.
Très bien, très bien. Merci beaucoup. Alors, les exoplanètes, c'est un sujet d'étude pour vous, vaste sujet. Alors, en quelques mots, ça désigne des planètes hors de notre système solaire, qu'elles soient situées dans notre galaxie, la Voie lactée ou bien plus loin. Elles sont donc liées à une étoile. Est-ce que ce sont systématiquement des systèmes planétaires auxquels on s'intéresse ou pas obligatoirement?
Alors, quand on explore, on explore. La majorité des planètes, effectivement, sont des ensembles de planètes, donc sont des systèmes planétaires, mais on a aussi détecté des planètes qui semblent être sols autour de l'étoile. Souvent, pour des bonnes raisons, c'est parce qu'il y a eu des phénomènes relativement dramatiques au cours de leur histoire. Quand je dis dramatique, au sens des planètes, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que des planètes, de par leur orbite, ne soient pas complètement stables et qu'il y a une certaine instabilité dans ces orbites qui fait qu'à terme, c'est un grand jeu de bilboquet où une planète commence à éjecter les autres. Vous trouvez avec des planètes éjectées dans le cosmos avec un nombre de planètes qui peut être une qui reste en orbite autour de l'étoile. Donc on sait que ce genre de phénomène a dû se passer parce qu'on a détecté, on a trouvé des planètes isolées et en particulier qui ne tournent pas dans la même direction que leur étoile. Ça, en général, c'est un signe qu'il s'est passé quelque chose d'assez violent dans l'histoire de formation, parce qu'on s'attend à ce que tout le monde tourne à peu près de la même chose. De par le mécanisme de formation des planètes qui est au sein d'un disque primordial, et en gros, le disque tourne comme l'étoile. Donc, vous avez vraiment une attente comme dans le système solaire où tout le monde est plus ou moins aligné et tout le monde tourne exactement dans le même sens. Mais ce n'est pas le cas. Des systèmes pour lesquels il y a des directions qui sont opposées, voire transverses, à ce moment-là, il y a dû avoir quelque chose de dramatique. Ce genre de scénario, justement, où les planètes sont bouleversées, où la répartition est complètement bouleversée.
Mmh. Très bien, merci beaucoup. Observation depuis la Terre, vous l'avez dit vous-même, il y a des sites fantastiques. Mais voilà, y a-t-il des vices et des vertus à cette observation-là? Cela préfigure les prochaines questions qui vont concerner Khéops, bien entendu. Okay. Est-ce qu'on observe mieux depuis un site fixe sur lequel on peut intervenir en temps réel et tout le temps, ou est-ce que, eh bien, depuis l'espace ou depuis ailleurs, on observe mieux?
Alors, le problème de l'observation depuis le sol, si j'ose dire, c'est l'atmosphère. Alors, bon, évidemment, enlever l'atmosphère, c'est enlever la vie sur Terre, donc vous ne voulez pas vraiment faire ça. Mais disons, ça, c'est vraiment la difficulté. Donc, d'abord, il faut qu'il fasse beau, parce que quand vous avez des nuages, vous ne voyez rien. Et en plus de ça, vous n'arrivez pas à voir la diversité de tout le spectre électromagnétique. Vous ne voyez pas très bien l'infrarouge, il y a des bandes qui ne passent pas dans l'UV. Donc, il y a plein d'éléments où le fait que vous êtes sous l'atmosphère vous empêche de voir la diversité de ce qui nous vient du cosmos. Donc, aller dans l'espace permet de résoudre ce problème. On s'affranchit de l'atmosphère, de facto on arrive à voir des choses qui ne sont pas visibles depuis le sol, et en plus l'atmosphère étant mobile, vous créez en permanence une sorte de, on va dire, une sorte de, vous allez bouger l'image en permanence. On appelle ça le seeing, c'est le terme technique. Vous allez bouger en permanence, les cellules d'atmosphère étant visibles, vous n'arrivez jamais à voir net. Donc l'espace vous permet justement de ne pas avoir d'atmosphère, donc d'être très propre par rapport à ça, et en même temps de ne pas avoir cet effet de netteté. Maintenant, il faut dire qu'on a beaucoup travaillé et qu'on arrive à corriger cet effet de netteté en ayant des télescopes très gros qui ont la capacité de corriger l'atmosphère. C'est un peu comme si vous avez des lunettes, en fait. Simplement, ce n'est pas une paire de lunettes, vous devez changer de paire de lunettes à peu près 100 fois par seconde, parce que l'atmosphère varie à peu près à cette fréquence-là. 100 fois par seconde, elle change. Donc, l'avantage du sol, c'est que ça vous permet de construire des très gros télescopes qui ne sont pas possibles au niveau de l'espace. Le plus grand télescope qu'on va bientôt lancer, ça sera un grand moment de stress et d'angoisse pour toutes les communautés du monde en astrophysique et les gens qui l'ont construit, c'est le James Webb Space Telescope. C'est un télescope qui a plus de 6 mètres de diamètre, ce qui est une prouesse. Les télescopes de 8 mètres, c'est de l'histoire sur le sol. Les VLT qui ont 8 mètres, le télescope de Hawaï, le Keck à 10 mètres. Donc, on construit des télescopes de cette dimension depuis plus de 20 ans sur le sol. Donc, la génération qu'on construit maintenant, elle est plutôt de l'ordre de 40 mètres. Donc, vous voyez, il y a toujours un décalage en termes de capacité de construction au niveau de l'espace et puis le sol. C'est vrai qu'on aimerait bien avoir un télescope de 40 mètres dans l'espace. On en aura probablement un jour ou l'autre. Il faudra probablement une nouvelle technologie. Il faudra pouvoir assembler ces miroirs dans l'espace. On y arrivera. Les mégastructures spatiales sont du domaine du futur, mais d'un futur qui n'est probablement pas si éloigné que ça quand on voit les prouesses de l'aéronautique ces jours.
Vous rêvez-vous, astronaute, d'une certaine manière, pour pouvoir réaliser ces observations depuis le ciel ?
Alors, bon, je ne dirais pas que je rêve de ça. Encore une fois, moi, je souhaite qu'on mette en place tous les moyens possibles pour les générations de scientifiques qui arrivent. Vous savez, la science, c'est une grande construction, c'est une immense cathédrale. Voilà, moi, j'ai apporté mes gros morceaux. Je vais aider encore à la construction parce que c'est génial, c'est une histoire extraordinaire.
C'est pas fini.
Mais quelque part, ces grandes missions du futur appartiennent aux futures générations de scientifiques. On peut les expliquer, on peut les motiver, on va essayer de les financer dans le futur, on va essayer de développer la technologie nécessaire pour les rendre possibles et réalistes, mais ce sera l'affaire des générations futures.
Mmh. Revenons aux méthodes d'observation. Donc vous-même avez débusqué cette première exoplanète par la méthode radiale, on l'a dit, plus de 4100 exoplanètes recensées désormais, notamment au travers de la méthode des transits. Pourquoi est-ce que cette méthode-là produit tant de découverte. Alors, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre?
Alors, le transit, en gros, c'est le moment où la planète passe devant son étoile. Pour que ça se passe, il faut que vous soyez aligné, il faut que l'orbite de la planète soit alignée entre la ligne de vue, entre vous et puis l'étoile. Ça, c'est un problème statistique. Plus la planète est proche de son étoile, plus elle a de chances d'être alignée. Pour des planètes qui ont 4 jours de période, on parle de l'ordre de 10%. Donc si vous imaginez, vous avez 10 étoiles, chacune avec une planète qui a une période de 4 jours, et que leur angle d'orbite est aléatoire, il dépend de comment vous regardez le système, en fait, ça dépend comment vous êtes dans la galaxie, il y en a une qui va entrer en transit. Donc l'existence même de planètes à courte période fait que la probabilité d'avoir un transit est très élevée. Vous n'avez quasiment aucune planète en transit détectée avec une période de plus d'une année. Donc, quelque part, s'il y avait que des planètes comme le système solaire, en gros, la méthode de transit n'aurait pas trouvé grand-chose. Et elle est justement... Elle a trouvé autant de planètes. C'est ce que j'expliquais avant en disant on a de la chance que la nature soit généreuse et produit autant de planètes qui ne sont pas comme celles du système solaire, parce que ces planètes sont très, très faciles à trouver. Et en particulier... Les méthodes de transit, dès que vous êtes avec une période inférieure de 20-30 jours, eh ben, elles vous les trouvent très facilement. C'est pour ça qu'actuellement, il y a une mission qui s'appelle TESS, il y a eu la mission Kepler, qu'on a beaucoup trouvé. Avant, il y a eu la première mission qui était Corot. Et maintenant, on a KEOPS qui utilise cette technique. Le but n'est pas de trouver des nouvelles planètes en transit, mais plutôt d'aller les mesurer avec beaucoup plus de détails pour aller comprendre leur structure et leur atmosphère. Donc, on est dans une autre démarche, mais on aura une mission qui s'appelle Plateau, qui va voler dans 4-5 ans, qui va continuer à explorer toutes les planètes en transit. Je dirais, dans 10 ans, on aura vraiment identifié toutes les planètes en transit relativement proches, qui ne représentent qu'une infime partie de toutes les planètes existantes, parce que simplement beaucoup de planètes ne transitent pas. Donc il faut quand même d'autres technologies, donc des technologies de type vitesse radiale ou astrométrique, on va aller mesurer l'impact sur le mouvement de l'étoile sur le ciel, pas uniquement sur le changement de vitesse, mais il y a aussi une technologie qui se développe, qui est d'essayer de faire des images de ces planètes. Donc là, on en a très peu, parce que c'est très difficile, mais les télescopes de la prochaine génération auront une meilleure capacité parce qu'ils vont pouvoir zoomer encore plus, ils sont plus grands, et on peut s'attendre à avoir de plus en plus des images en fait de ces systèmes planétaires qui arrivent, et quelque part dans peut-être 100 ans, toutes ces techniques transit vitesse radiale seront des techniques secondaires, et que la technique principale, ce sera justement d'aller pouvoir directement faire des images, comme ce qu'on aurait aimé faire depuis le début, mais simplement c'est très très difficile.
KEOPS, ça signifie Characterizing, alors je prononce très mal, exoplanète satellite. Oui. Donc c'est un petit télescope optique, petit entre guillemets bien entendu, qui évolue en orbite terrestre basse à 700 km au-dessus de la Terre. Oui. Et il mesure les transits des exoplanètes. Oui. Je vais juste donner le site internet parce que là-dessus on peut voir plein de choses. www.keops.unibern.ch. Alors les tailles, les masses, les densités et ensuite les atmosphères.
Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous mesurez une planète en transit, vous avez accès à beaucoup d'informations. D'abord, vous avez accès à la taille, c'est le but principal du transit. Dans beaucoup de cas, on a des tailles relativement peu précises de ces planètes parce qu'elles ont été trouvées par des moyens qui n'avaient pas la précision nécessaire. Premièrement, ce n'était pas fait dans l'espace, ou même si c'était fait dans l'espace, ça a été fait de manière incomplète par des instruments qui n'étaient pas forcément optimisés pour obtenir des tailles de grande précision. Pourquoi c'est important de connaître la taille? Parce que savoir si une planète a une fois la taille de la Terre ou 1,1 fois, donc 10% plus grande que la Terre, ça a un impact important sur la géophysique de ces planètes. Donc la connaissance précise de la taille a un rôle, en fait, sur la capacité que l'on a de comprendre la structure de ces planètes. Donc ça, c'est le premier rôle de KEOPS. Maintenant, quand vous avez des atmosphères, vous allez, quelque part, changer un tout petit peu la taille. C'est la planète plus l'atmosphère. Maintenant, ces atmosphères, elles vont avoir un effet en fonction de la couleur que vous allez utiliser pour regarder ces planètes. Dans le rouge ou dans le bleu, vous n'allez pas mesurer la même taille. Et ça, quelque part, ça vous dira quelque chose sur l'existence de l'atmosphère, la nature des particules dans l'atmosphère, voire de ces nuages. Donc ça, c'est un autre élément que ce que KEOPS va pouvoir faire. Bon, il y a un troisième élément que KEOPS va pouvoir faire, c'est que beaucoup de ces missions qui sont des missions où on va détecté des événements, ont détecté relativement peu d'événements. Et ils n'ont pas une bonne connaissance du timing de la planète, indépendamment de la faible connaissance qu'ils ont sur la taille. Il y a également la possibilité de détecter la présence d'autres planètes qui changent la position et le temps du transit. Ça s'appelle les variations de transit. Et on a la possibilité avec Hubble d'aller simplement réobserver cette planète au bon moment pour mesurer beaucoup plus précisément, non pas uniquement en ce moment-là, la forme, mais le temps du transit. Et cette capacité-là vous donne accès à comprendre la diversité planétaire que vous avez sur ces étoiles. Donc tous ces éléments-là font que Keops est en fait fait ce qu'on appelle fait une sorte de suivi des planètes connues et permet d'approfondir, voire même de découvrir des choses nouvelles, en particulier sur les plus intéressantes de ces planètes, celles qui sont autour des étoiles brillantes. Parce que c'est surtout celle-là qui nous intéresse, parce que c'est celle-là pour laquelle on aura probablement le plus de facilité à l'avenir d'obtenir le plus d'informations possibles.
D'accord. Est-ce qu'il y a là tout de même un biais qui consiste à rechercher des planètes qui sont relativement proches de ce que l'on connaît sur Terre, des planètes telluriques plutôt que des gazeuses, dans une zone d'habitabilité qui est celle que l'on détermine. Ainsi, de cette manière-là, est-ce qu'on filtre d'une certaine manière les observations que l'on va faire avec Keops, ou est-ce qu'on observe vraiment un maximum de choses?
Alors non, la sélection, c'est pas tellement un biais, c'est pas vraiment le terme.
C'est vrai.
On sélectionne les étoiles brillantes avec planètes parce que, encore une fois, ce sont les plus intéressantes. Donc, ça, c'est un choix. Maintenant, les étoiles brillantes présentent, on retrouve tout le type de planètes qui existent autour de ces étoiles brillantes. Donc, en fait, on va optimiser ce qu'on appelle le retour scientifique de la mission. Maintenant, on a quand même une capacité d'observer une centaine d'étoiles. On ne va pas uniquement se focaliser sur les 3-4 étoiles les plus brillantes. On va aussi chercher les objets qui ont le plus d'intérêt en termes de nouvelles connaissances que l'on peut acquérir. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel actuellement. C'est d'essayer d'utiliser, non pas de trouver plus de planètes, mais plutôt d'essayer de mieux les comprendre, ce qu'on appelle la caractérisation des planètes. Et c'est vraiment sur ce point, la caractérisation des planètes, d'abord leurs paramètres physiques, mais également ce qui se passe au niveau de leur atmosphère, la structure de leur atmosphère, que se place l'essentiel des activités futures. On a trouvé déjà tellement de planètes qu'on a déjà beaucoup de planètes à étudier.
Absolument, absolument. Toute dernière question, je vous remercie vraiment beaucoup de professeur Kellos d'avoir pris tout ce temps-là. Toute dernière question, c'est voilà comment susciter des vocations chez les petites filles, chez les petits garçons. Est-ce qu'effectivement déjà les femmes accèdent mieux à ces sphères-là d'études? Et qu'en est-il, deuxième volet de la question, qu'en est-il des budgets, notamment en Suisse? Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, va pouvoir perdurer? Après, j'avais toute une série de questions que je vous poserai pas, mais
vous me ravitez.
Non, parce que j'aurais voulu, si après vous y pensez encore, mais j'aurais voulu savoir, vous étiez présent au moment à Kourou, au moment du lancement de Keops.
Oui, bien sûr.
C'est Soyouz qui part avec Keops.
Ah ben oui.
Un truc de fou. Soyouz, c'est l'histoire de la recherche. Oui. Et Keops, c'est la Suisse.
Oui.
J'aurais voulu avoir, juste pour terminer, votre état d'esprit par rapport à ça.
On va faire une émission sur Keops. Ouais. Inviter d'autres partenaires.
Mais
ça,
c'est
on
clair.
Va pas y arriver.
Non, je sais. Alors, rapidement. Comment susciter des vocations? Dites-moi.
Donc, un rôle très important d'un professeur, je pense, c'est justement de préparer la relève. Donc, comment on suscite des vocations? D'abord, il faut partager de manière généreuse l'aventure scientifique. Et l'aventure, c'est aussi l'émotion scientifique. La science, c'est beau. La science, c'est émotionnel. La science, c'est enthousiasmant. Donc, il y a plein de manières de la faire. Votre émission y participe. Il peut y avoir des participations à des ouvrages. Il peut y avoir à des émissions de télévision, à des conférences. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'essayer d'assurer un maximum de relèves. Maintenant, il y a aussi le cadre légal dans lequel on peut assurer ces relèves. Il faut absolument que la science soit ouverte à tous et à toutes. Donc, ce n'est pas uniquement un problème de genre, c'est aussi un problème d'accès à toutes les couches de la société. Moi, j'aime bien rappeler que moi, je suis originaire, d'un quartier, on va dire, relativement standard de Genève. J'ai vécu à Aunay. J'ai bénéficié de l'école publique gratuite. Ma famille, on va dire, est plutôt de classe moyenne, mais vraiment rien d'exceptionnel. Donc, en fait, la science est ouverte à tous et à toutes. En Suisse, on a cette chance énorme et il faut continuer à se battre pour conserver justement cet accès et la possibilité d'attirer les gens qui ont la capacité, parce que c'est clair qu'il y a un don jusqu'à un certain un moment donné, pour que tout le monde ayant ce don, et ce don il existe dans toutes les couches de la société et indépendamment de si on parle de filles ou de garçons ici, c'est vraiment pour tout le monde. Et ça, c'est sûr qu'il faut s'assurer. Et on n'est jamais assez prudent pour s'assurer de ça. Et des initiatives telles que, par exemple, le congé de paternité, je profite d'y parler, certainement profitent énormément à s'assurer, à garantir un accès aussi aux jeunes familles, accès aux jeunes couples, à une carrière scientifique. On entend toujours des histoires que des femmes, quasiment malheureusement des femmes dans la majeure partie des cas, mais aussi j'ai des connaissances qui ont arrêté leur carrière scientifique par manque de support quelque part à des moments clés de leur vie, en particulier un moment où ils ont eu des enfants. On doit pouvoir élever une famille et aussi être un chercheur. Donc tous ces éléments-là participent à la démocratisation de la science qui est absolument fondamentale. Moi, je suis toujours un peu peur de voir le découplage qu'il y a entre la connaissance et la culture scientifique et la réalité de la société. Quand on entend que des gens nient des choses évidentes comme l'influence humaine sur le réchauffement climatique, ça fait peur et ça montre qu'on a quelque part raté un certain élément de communication. Donc tout ça fait partie de la promotion de l'enthousiasme de la science que j'essaye de manière modeste et peut-être de manière plus visible maintenant avec l'aide du prix Nobel, de promouvoir.
Professeur Kello, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite des opérations, pour la suite de vos recherches, et puis bonne chance pour la leçon d'ouverture d'automne ici à l'Université de Genève qui aura lieu tout à l'heure. Et nous remercions également beaucoup Luana Naska du service de communication de l'Université de Genève, parce qu'on a débordé. Merci beaucoup et merci encore.
Mais c'est un plaisir. Et revenez pour KEUPS. On a encore beaucoup d'histoires à vous raconter. Et dans une semaine, on va produire les premiers résultats scientifiques. C'est un scoop pour votre radio.
Génial. Merci encore.